Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Bonjour, je suis la bibliologue. Un repas en guirlande. Cette circonstance. Les festivités de Noël tournent autour de pas seulement autour du sapin, mais encore face à une table somptueusement parée, garnie de plats aux fumées alléchants, mais sous le regard d'une étoile. La grande majorité s'en réjouit à l'avance, les autres le regrettent, tant pis pour eux. La fin de l'année est marquée depuis des décennies, ceci sur toutes les contrées, par des repas fastueux au cours desquels l'élégance dispute à l'abondance. Nous commençons par Noël, certains la veille, nous continuons par le jour de l'an, sans oublier le réveillon, les pans s'en sortent exténués, et lorsque l'on considère les menus de nos anciens, nous sommes effarés. Comment diable pouvait-il tout absorber ? Tenez ! Auriez-vous été capable d'apprécier ce menu composé par Escoffier pour Noël 1899 au Savoy de Londres ? Je cite « Caviar frais, bouquet de crevettes, royal native, tortue claire, borscht à la russe, suprême de sole à l'aurore, filet de rouget aux laitances, poulard de royal, timbale de truffe au champagne, sel de chevreuil grand veneur, mousseline d'écrevisse, délice de bécasse, sorbet d'âme blanche, ortolan en cocotte, caille à l'orange, salade de capucin, asperges nouvelles, foie gras, poché au cliquot, soufflé chantilly, ananas glacé, mandanerelle orientale, biscuits aveline, millardise, galette écossaise, fourris. Quant au vin, Johannisberger Cabinet 1874, Pommery Extra Sec 1884, Château Comté marqué de l'Ursalus, mise du château estampé 1861, Grande Champagne 1830, Grande Liqueur, Café Turc. Une merveille. À la jolie dame qui m'aurait accompagné à Londres à cette époque, j'aurais pu citer cette phrase d'accueil que l'on vous offre au Liban. « Je te donne à manger autant que je t'aime ». En écoutant ainsi moduler un chant de Noël, la belle n'aurait pas songé à repousser son assiette. Elle aurait de la même manière accepté d'esquisser quelques pas d'une ou de plusieurs valses avant de glisser sur la neige, qui n'aurait pas manqué de tomber ce soir divin durant la célébration de la messe. Même en temps de guerre, le menu de Noël saurait être hors du commun. Ainsi, au café voisin, au 261 rue Saint-Honoré, pour le Noël 1870, le chef composa un menu siège de Paris. Nous étions au 99e jour du siège. Pour accompagner des Latour Blanche 1861, Palmer 1864, Mouton Rothschild 1846 et Romanée Conti 1853, voisin proposa une tête d'âne farcie, un consommé d'éléphant, un chameau rôti à l'anglaise, un civet de kangourou, des côtes d'ours rôties sauce poivrade, des cuisseaux de loup sauce chevreuil, des chats flanqués de rats et de la terrine d'antilope. Il est vrai qu'on venait de vendre les animaux du jardin d'acclimatation. En guise d'exergue à ces physiologies du goût aux méditations de gastronomie transcendante, publiées chez Sautelet en 1826, Jean-Anthelme Briat-Savarin inscrivit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Nous ignorons si Briat-Savarin, qui était magistrat, fut invité à ce dîner donné aux Tuileries en 1820, reproduit dans l'Art culinaire français, publié chez Flammarion en 1953. Celui-ci était composé de 2 potages, 4 grosses pièces, 16 entrées, 15 grosses pièces encore, 3 plats d'euros, 16 entremets et 3 desserts. Briat-Savarin l'aurait certes goûté, car il était un vautou, un homme d'esprit, un épicurien bienveillant et un grand érudit. Son livre fut composé comme une plaisanterie, un jeu de l'imagination. Ouvrage théorique à l'ordre du jour dédié au gastronome parisien par un professeur membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes, ce livre-là connut un très grand succès qui ne s'est pas démenti depuis. Il fut tiré à 500 exemplaires et mis en vente sans nom d'auteur en décembre 1825. Mais Briat-Savarin ne put apprécier son bon accueil. Il mourut 2 mois après, le 2 février 1826. Paraphrasant cette esthète, nous pourrions également dire « Dis-moi comment tu répailles, je te dirai ce que tu es ». » Au verso du menu du réveillon du 24 décembre 1911, au restaurant du Grand Hôtel, alors installé 275 rue Saint-Honoré à Paris, Colette, qui se nommait encore Colette Villy, écrivit « On se décale à votre santé, lisez plutôt. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos nez ont sentu, ce que nos langues ont léchu, on vient de l'opéra, Copri, orthographe anglaise, à Vinnitchansky, et je ne réponds plus de rien. » Sous les vers de Colette apparaissent un distique pornographique, sans doute de Jouvenel, ainsi que des facéties en mirliton grivois par les autres convives du réveillon. Probablement Léon Hamel, Georges Vague et Christiane Mandelis, sa femme, dont le surnom était Cropy. On s'amusait sans doute, mais en perdant son élégance. Les banquets sont par excellence païens, quoique la religion ait sanctifié le bonheur de partager les repas. Comus en est le maître. Ce dieu considéré comme subalterne mais admis dans l'Olympe, avec Monus, avait pour charge de divertir les dieux. Il présidait à la toilette, au festin, à l'amour matériel, enfin à toutes les jouissances de la sensualité. Il aimait le vin et se lia naturellement avec Bacchus. Leurs deux noms sont souvent liés. Et l'on imagine avec eux les faces les plus délicieuses et les plus lourdes. Pour s'y retrouver, on peut consulter les œuvres d'Athénée ou le banquet des savants, traduit par Lefèvre de Villebrune, est sorti de l'imprimerie de Monsieur en 1789, le tout en 5 volumes. Un texte précieux pour la connaissance de l'histoire de la table et de la gastronomie dans l'Antiquité. Le bibliographe Brunet considère cette traduction inexacte et mal écrite, dont acte. François Marin, cuisinier fameux, ami de cœur du roi, protégé par Madame de Pompadour, publia Les dons de Comus ou Les délices de la table chez Pro en 1739. Son ouvrage révolutionne la cuisine en abolissant les grands fonds qu'il remplacera par des jus et en allégeant considérablement les recettes, une sorte de nouvelle cuisine, plus de 2 siècles avant les prétendus inventeurs d'Issel. Pour Madame du Barry, Comus prit la main de Cupidon. À eux deux, ils composèrent un bréviaire de la table. Celui-là est en fait un texte composé à la demande de Louis XV pour sa favorite à l'occasion de son installation au pavillon de Louveciennes en 1770. Il fut calligraphié par Jacques-Augustin de Sylvestre et relié par Jean-Robert Bailly, maître relié en 1747. Ce manuscrit réglé et enluminé, paroles et musique, de chansons à boire et légères, contient aussi des offices journels, nocturnes et hymnes en l'honneur de Bacchus et de l'amour à l'usage des abbayes et monastères de l'ordre de Cypris, pour elle seule, usité dans le diocèse de Cythère, à Cocagne, chez des frères joyeux rue de la sensualité, sous les piliers des plaisirs autant que du goût écrit. Si le viandet de Taïwan, dont il existe une heureuse édition présentée par le baron Pichon dans une édition de Techner en 1892, est considéré comme un classique, on ne saurait négliger les mérites de Grémaud de la Reynière, dont le manuel des amphitryons, publié par Capelle de Renan en 1808, est destiné à enseigner l'art de recevoir. Cet aristocrate qui se retira à Villars-sur-Auge, dans l'ancien château de la marquise de Brinvilliers, l'empoisonneuse, où il donna de mémorables dîners, mourut, à l'âge de 80 ans, le soir du réveillon du 25 décembre 1837. Avant de nous quitter, il avait également laissé le fameux almanach des gourmands créé en 1803. Et que choisir comme dessert? Qui ne serait pas une bûche composée de crème pâtissière? Une pelle schmelbar, pardi. Qui en eut l'idée? De cette douceur sans pareille? Auguste Écoffier, 1846-1935, qu'il a dédié à Nelly Melba, 1861-1931, cantatrice australienne, la meilleure de son temps. Celui que l'on a surnommé le maître des saveurs, Escoffier, pas Melba, nous a d'abord donné le guide culinaire et de mémoire de cuisine pratique, qui publie en 1903, dont on préféra l'édition 1929, puis le livre des menus, complément indispensable au guide culinaire, en 1927, et ensuite Ma cuisine, composé de 2500 recettes en 1934. Escoffier avait également compris que l'art de la cuisine passait aussi par la décoration de la table. Il composa les fleurs en cire ou l'art de faire des bouquets artificiels, complément de la science des cuisiniers d'autrefois. L'édition originale parue en 1885, elle est introuvable. Tandis que sonnent les carillons dans les clochers, que chantent les enfants autour du sapin, les grandes personnes pourront faire leur cette devise de Brillat-Savarin qu'Escoffier avait fait sienne. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile.